Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, @ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!
Bonjour chers auditeurs, c'est Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de notre impact sur la culture. Cette intervention fait partie d'une série que j'ai intitulée « Aux citoyens de bonne foi ». Et oui, il sera question de l'impact sur sa culture, du concept de patriotisme communautarien, de l'indépendance du Québec, de la foi athéiste, des laïcistes radicaux, du pouvoir parental en milieu scolaire et de la tribune du citoyen. Débutons par l'impact sur sa culture. Eh bien, mesdames et messieurs, les gens de foi sont appelés à ne laisser personne indifférent. Vous savez, même l'apôtre Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens qu'on peut être une odeur de vie ou une odeur de mort. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Il dit ceci: « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? » Et donc, on voit que ce contraste, même au milieu de la communauté chrétienne, par exemple, on peut être une odeur de vie, et au milieu de ceux qui sont non-chrétiens, on peut également être une odeur de vie et une odeur de mort. Et donc, à ce moment-là, mesdames et messieurs, les gens vont reconnaître ces deux odeurs. Pourtant, on est la même personne. Est-ce que vous avez constaté que des gens autour de vous disent « Hey, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu es, mais... j'aime pas ton identité. Je veux pas m'associer à Jésus-Christ. » Je me souviens qu'il y a quelqu'un de mon entourage qui m'a dit « Hey, la musique que tu fais, je l'aime, mais pourquoi vous mentionnez toujours le nom de Jésus? » Puis Jésus, c'est agressant. Il y a quelque chose qui agresse les gens lorsqu'on s'identifie à la personne de Jésus-Christ. Mais en même temps, une personne qui est animée de l'Esprit de Jésus, qui est animé justement de cette dynamique qui provient de l'intérieur, eh bien, ça laisse personne indifférent. La vie qui nous habite est manifeste aux yeux des autres. C'est clair. C'est exactement ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Quand il nous dit de se consacrer, de se mettre à part, de se sanctifier, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et avez-vous remarqué les deux temps de verbe? Sanctifier est à la deuxième personne du pluriel. Donc, l'auteur s'adresse à son auditoire. Il leur dit, vous, là, sanctifiez-vous, mettez-vous à part, consacrez-vous, parce que les autres ne verront pas. Personne ne verra. C'est à la troisième personne du singulier. Il n'y a pas une seule personne qui va voir que Jésus-Christ est en ta vie si tu ne te mets pas à part, si tu ne te consacres pas, si tu ne passes pas du temps avec lui. Et c'est ce qu'on veut, nous, les gens de foi, avoir un impact sur les citoyens de bonne foi, sur l'ensemble de la population. Et comment ça peut s'opérer, ça? Eh bien, 1 Pierre, chapitre 2, verset 15, l'apôtre Pierre nous dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Même si on est pour certains une odeur de mort, parce qu'on a des valeurs différentes, eh bien, lorsqu'on pratique ces choses, lorsqu'on pratique ce que Dieu déclare bien, on ne fait pas simplement les proclamer, mais on les pratique. D'une part, on va être heureux, c'est ce que Jésus a dit, heureux ceux qui pratiquent ma parole. Eh bien, ensuite, on réduit au silence, on est convaincant. On est convaincant. On est convaincant auprès de ceux qui sont ignorants des principes de Dieu, des principes divins, qui sont ignorants de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'Évangile, et insensés, donc qui n'ont pas le sens ou la direction de Dieu dans leur vie. Il y a des gens très intelligents sur cette planète, même plus intelligents que nous. Il faut le reconnaître. mais qui n'ont pas le sens de Dieu sur les choses. Le roi Salomon, dans ses paroles de sagesse, le Proverbe 2, verset 20, chapitre 2, verset 20, il dit « Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes. » On est appelé à marcher dans la voie des gens de bien. Si on voit quelqu'un qui fait le bien autour de nous, on est appelé à saluer ce bien-là. Il y a des gens de bonne foi dans notre société qui font des choses qu'on considère bien parce que la parole de Dieu dit que c'est bien. Un homme qui demeure fidèle à sa femme tout au long de son mariage, c'est bien et ça doit être honoré. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 13 justement que le mariage soit honoré de tous. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 57.1, nous dit « Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. » Que c'est par suite de malice que le juste est enlevé. Écoutez, si les gens de bien, si les citoyens de bonne foi sont enlevés dans notre société, et si les gens de foi sont également enlevés dans notre société, qu'est-ce qui va rester dans notre société? Est-ce que les gens vont s'en rendre compte? Est-ce que le peu qui fonctionne bien, c'est à cause de l'influence des gens de foi et des citoyens de bonne foi? Mais écoutez, mesdames et messieurs, on voit notre société reculer, se distancer des principes qui sont reconnus comme étant bien de la part de Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin des plateformes comme le 92,7 pour exprimer, pour discuter qu'est-ce qui est bon pour notre société. Évidemment, les gens de foi vont dire « Ce qui est bon pour notre société, c'est le salut en Jésus-Christ. » Je dis « Amen à ça. » Mais savez-vous quoi? Le salut en Jésus-Christ nous pousse à valoriser ce que Dieu veut valoriser. Pas simplement dans nos circuits internes, mais au milieu de ce monde, être un flambeau au milieu de ce monde. Parce que savez-vous quoi? Jésus a dit dans Marc 9,40, qui n'est pas contre nous est pour nous. Il y a des gens qui ne sont pas contre nous. Il y a des gens qui ne sont pas contre nos principes. Il y a des citoyens de bonne foi qui sont d'accord avec certains de nos principes. Et c'est là qu'on retrouve nos alliés, ceux qui pratiquent nos valeurs, ceux qui mettent en valeur ce qu'on considère comme important dans notre société. Et ce sont ceux-là, envers qui on a gagné leur confiance, qui vont nous demander de leur témoigner de notre espérance. Que ce soit par curiosité ou par intérêt, la semence va faire son travail. 1 Pierre chapitre 3, verset 15. 1 Pierre 3, 15. 2 Timothée 3, 3. L'apôtre Paul va mentionner qu'il va y avoir des gens qui vont être insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien. Il va y avoir une génération de gens qui vont être ennemis des gens de bien. Dans notre société, nos meilleurs alliés sont les gens de bien. Quand Paul écrit, l'apôtre Paul écrit à un de ses disciples, Tite, dans Tite chapitre 1, verset 8, il parle des évêques ou ceux qui sont appelés à inspirer l'Église. Et on mentionne justement des traits de qualité qui fait qu'une personne se qualifie, si on veut, comme évêque ou comme modèle de l'Église. Il faut qu'il soit, par exemple, hospitalier, modéré, juste, tempérant. Et qu'est-ce qu'on dit également? Ami des gens de bien. C'est une caractéristique d'une personne influente au sein de la communauté chrétienne, au sein des gens de foi. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre au chapitre 2, les versets 13 à 15, 1 Pierre 2, 13 à 15, ça nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. » Donc, lorsqu'un gouvernement fait quelque chose de bon, on doit l'approuver. Lorsque le gouvernement fait quelque chose de mal, puisqu'on est en démocratie et on a ce droit-là, eh bien, on le mentionne également. Parce qu'on veut que, selon la parole de Dieu, le gouvernement puisse punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Mais il va y avoir une génération où est-ce que les gens vont appeler le bien mal, selon Dieu, et le mal, selon Dieu, ils vont l'appeler bien. Notre impact sur l'entourage va définitivement affecter la culture, puisque la culture, c'est l'expression de ce qu'un groupe célèbre. Vous savez, quand j'ai fait une série sur la culture, j'avais cité De Blois et Corriveau, qui ont fait une recherche sur la culture de l'école secondaire et le cheminement des écoles la culture de l'école secondaire et le cheminement scolaire des élèves. Et ça, ça a paru en 1994, mais même si ça fait plus de 20 ans que cette recherche a été mise sous presse, il reste que néanmoins les principes qui sont écrits sont des principes fondamentaux. Et à la page 10 de cette recherche, on nous dit que cette notion, en parlant de la culture, renvoie à l'expérience de vie en groupe, à ce sentiment qui naît dès que l'on s'intègre à un groupe de personnes sur une longue période pour réaliser un projet quelconque. Ce sentiment vague est aussi ressenti lorsqu'on rentre dans un établissement comme l'école. Il suffit d'y mettre le pied pour se rendre compte qu'il existe une vie commune, particulière à l'établissement, qui semble aller de soi pour ceux qui y appartiennent. Il y a une vie qui se dégage d'un groupe parce qu'ils partagent des valeurs communes. Ils ont une célébration en commun. Et qu'est-ce que va nous dire également De Blois et Corriveau? Ils vont nous dire « La réalité sociale et organisationnelle prend donc naissance dans la conscience subjective des individus. » La conscience subjective, ça veut dire que c'est parce qu'on a été influencé dans une direction, on a adhéré à cette influence-là, on la célèbre, on la reconnaît comme étant bonne et comme étant la nôtre. Et donc, on peut influencer d'une manière subjective des individus autour de nous par notre attitude, par notre comportement, par notre amour, par notre écoute. De Blois et Corriveau poursuivent en disant « C'est en donnant un sens et des valeurs à la réalité qui les entoure que les individus et les groupes d'individus développent une façon de voir et de comprendre les choses autour d'eux et apprennent à fonctionner normalement, c'est-à-dire selon la vision commune ou la culture qu'ils ont élaborée comme groupe. » On peut contribuer à influencer notre culture, mesdames et messieurs. D'abord, cette réalité culturelle est historique. Et c'est en quelque sorte la résultante de l'expérience personnelle des membres de l'organisation et des actions passées qu'ils ont posées. Et ça, j'en ai parlé et je vais revenir là-dessus, justement sur notre historicité. Et si cette culture se fonde sur les valeurs et le sens que donnent les individus à cette organisation, cela suppose que cette culture est toujours appelée à évoluer. Ce sont donc les individus et les groupes d'individus qui peuvent redéfinir au besoin le sens à donner à l'organisation. Et donc, mesdames et messieurs, on peut avoir un impact, une influence sur un groupe, sur une culture. Et ça, c'est important, mesdames et messieurs. Il y a des gens qui ont influencé la musique comme Bach, la société civile comme Calvin, comme la politique comme Wilberforce, comme des pères et des mères, des amis qui ont influencé ou qui ont marqué leur entourage par leur amour, par l'amour qu'ils ont démontré aux autres. Eh bien, il y a des gens qui ont marqué votre vie, peut-être des enseignants, des enseignantes, un membre de votre famille, de votre quartier. Dans notre génération, savez-vous c'est quoi les plus grands besoins? On voit ça dans Matthieu 24, 12. Il va y avoir un temps que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça veut dire que les gens vont devenir de plus en plus individualistes. Les gens ont besoin de plus en plus d'avoir des marques d'affection authentiques. On le voit par l'euthanasie. Les gens se sentent abandonnés, donc ils sont prêts à mourir parce qu'ils ne sont pas importants pour les gens de leur entourage. Le besoin d'être écouté. Mais savez-vous quoi? C'est un extrêmement grand besoin. On le voit, tout le monde s'exprime sur les réseaux sociaux. Mais vous n'avez pas à craindre. Si vous dites, oui, mais moi, j'aime parler. Proverbe 21-28 dit, celui qui écoute, là, il y aura plusieurs occasions de parler. Parce que si vous êtes écouté, tôt ou tard, les gens vont vous demander conseil parce qu'ils vont vous faire confiance. Mais sans amour, c'est impossible de faire sentir aux autres qu'on les aime. Savez-vous quoi? Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. C'est plus puissant que la foi. Vous allez dire, oh non, non, là tu pousses trop loin, Eric. Oui, oui. Parce que même si j'ai la foi pour transporter les montagnes, Qu'est-ce que la Bible dit? « Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. » Rechercher le bien de ce monde qui périt, c'est une grande marque d'amour. Et c'est ce qui doit nous distinguer, mesdames et messieurs. Je vois que le temps file, alors j'aimerais vous laisser sur une note. Eh bien, demain, il sera question du concept de patriotisme communautarien. On en a parlé il y a quelques jours, mais j'aimerais y revenir, mesdames et messieurs, parce qu'on est dans cette série. Cette série, mesdames et messieurs, qui s'intitule « Aux citoyens de bonne foi ». Alors, sur ce, mesdames et messieurs, puisque le temps est écoulé, je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur, à commercial, ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!